bonsoir à tous. Il est 19h à Bamako et à Niamey, 20h à Bangassou, 14h ici à Washington. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. En Centrafrique, des rebelles ont pris le contrôle aujourd'hui de Bangassou, à 750 km à l'est de la capitale Bangui. Les rebelles contrôlent la ville, ils sont partout. Ce sont les déclarations de Roosevelt Pierre-Louis, le chef du bureau régional de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, à la veille des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre. Depuis le 19 décembre, une coalition de groupes rebelles qui occupe les deux tiers du territoire mène une offensive. Au Niger, 100 personnes ont été tuées hier samedi dans les attaques de deux villages de l'ouest du pays, Choma Bangou et Zaruma Darey. C'est ce qu'a indiqué Almou Hassan, le maire de Tondi-Kiwindi, commune qui administre les deux villages ciblés par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos, selon le témoignage du maire. Ce bilan pourrait être le pire massacre de civils dans ce pays visé par des groupes djihadistes. Au Tchad, au moins 11 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements entre éleveurs et cultivateurs qui se sont déroulés vendredi et samedi dans la province de Salamat, dans le sud-est du pays, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. Au Mali, deux soldats français, dont une femme, ont été tués et un troisième soldat blessé hier dans le nord-est du pays dans une attaque à l'engin explosif improvisé. Ces deux décès portent à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations anti-djihadistes Serval puis Barkhane. En Algérie, deux djihadistes et un militaire ont été tués cet après-midi lors d'une opération antiterroriste dans la région de Tipaza, à l'ouest d'Alger. Ce deuxième accrochage en 24 heures porte à 6 le nombre de terroristes abattus dans la même zone. Trois militaires ont trouvé la mort au cours de ces affrontements. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris aujourd'hui leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil, construit par Addis Abeba et convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation. Lutte contre le coronavirus, le gouvernement du Zimbabwe a ordonné hier soir un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire et l'Égypte a autorisé l'utilisation du vaccin chinois de Sinopharm et devrait acheter 40 millions de doses. Sinopharm a annoncé mercredi que son vaccin est efficace à 79%. Ce vaccin doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement. Excusez-moi. En Israël, 2 millions de personnes auront reçu la double injection du vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici fin janvier. C'est ce qu'ont affirmé aujourd'hui les autorités du pays, alors qu'un troisième confinement est en vigueur dans le pays. Cette campagne de vaccination nationale a été lancée le 19 décembre par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre actuellement en campagne électorale. En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a averti aujourd'hui que des restrictions plus sévères pourraient être décidées pour combattre la rapide progression du nouveau coronavirus, mais cette fois attribuée à un nouveau variant, une nouvelle souche du virus. Par ailleurs, Boris Johnson a réaffirmé son opposition à la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, ardemment souhaité par la chef du gouvernement écossais, qui souhaite que son pays, l'Écosse, une fois indépendante, rejoigne l'Union européenne. Enfin, en Irak, des milliers de partisans de paramilitaires pro-Iran ont marqué aujourd'hui, lors d'une démonstration de force à Bagdad, le premier anniversaire de l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien et ont appelé à la vengeance. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. C'était Claire Morin-Gibourg. Je vous retrouve dans une petite heure pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions sur la foi et la fraternité. Eric Maniratiba avec vous, Michel Joseph assure la mise en ordre. Dans son traditionnel message du jour de Noël, le pape François a insisté sur le besoin de fraternité. En ce moment historique, marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité, a déclaré le souverain pontife. Que Noël soit pour tous l'occasion de redécouvrir la famille comme berceau de vie et de foi, lieu d'amour accueillant, de dialogue, de pardon, de solidarité fraternelle et de joie partagée, source de paix pour toute l'humanité, a-t-il ajouté avant de souhaiter un bon Noël à tous. La fraternité que prône le Coran, à quelle dimension? Que dit la Bible sur la fraternité? Comment lier la foi à la fraternité dans la vie quotidienne? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. À New York, aux États-Unis, Omar Al-Farouk Diaby, professeur du droit musulman, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Eric.
À Paris, le père Steve Mike Nyomuru, bonsoir.
Bonsoir.
Joyeux Noël, mon père.
Merci, et ainsi qu'à tous vos auditeurs, je te souhaite joyeusement un joyeux Noël. Voilà.
Je peux dire aussi joyeux Noël à monsieur Al-Farouk.
Bon, ça c'est une prière destinée à nos frères chrétiens. Nous les aimons beaucoup, mais dès lors que ça devient un culte, nous sommes obligés de ne pas participer à cela, tout en l'achetant reçu dans tout ce qu'ils font en tant que frères.
Le pape François a appelé à une fraternité concrète dépassant la famille, l'ethnie, la religion, la langue ou la culture. Selon lui, cela est vrai aussi dans les relations entre les peuples et les nations. Peut-on dire que la fraternité relève d'un acte de foi, Père Steve?
Absolument. Comme tout croyant, nous pensons que la foi concerne toutes les dimensions de la personne humaine. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas professer notre foi uniquement quand nous sommes dans le lieu de culte, mais elle engage l'existence entière de la personne. Et plus particulièrement, si je ne parle qu'au niveau des chrétiens, qui croient que Dieu est le créateur de l'humanité, hein, toute l'humanité. Après, l'adhésion personnelle de chaque individu, c'est une chose, mais ayant le même créateur, nous avons véritablement à aller vers les autres comme étant nos frères en humanité. Et dans votre introduction au début de l'émission, vous posiez comme question de savoir que dit par exemple la Bible sur la fraternité. Je voudrais citer, pour vous donner un exemple, que le premier acte, le premier délit, hein, si on veut, de fratricide dans la Bible, c'est l'épisode entre Abel et Caïn, où Dieu va demander à Caïn, mais où est ton frère? Et cette question, les chrétiens considèrent qu'elle n'est pas adressée simplement à des fratries, c'est-à-dire entre grands frères et petits frères, mais à toute l'humanité. Et la réponse de Caïn, qui est une réponse coupable, mais qui dit beaucoup de la pensée humaine, c'est « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu semble lui répondre que oui. Voilà, et donc on a à aller vers tous les humains, même sans partager pour autant leurs convictions, on peut vivre fraternellement, on doit vivre fraternellement. Je termine, si vous voulez, en citant quelqu'un qui n'est pas spécialement chrétien, Gandhi, qui dit « Nous sommes condamnés à vivre en frères, ou alors à périr tous ensemble. »
Al-Farouk, le musulman est le frère du musulman, selon le prophète, le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. La foi musulmane accorde quelle dimension à la fraternité?
En fait, il y a deux dimensions que le Coran aborde en parlant de la fraternité. Il y a la première dimension que le père Ils a évoquée et qui est fondamentalement importante, c'est notre appartenance à la même espèce. Et dans ce sens, Allah dit dans le Coran, surat al-Hujurat, les appartements, « Ya ayyuhan nas ittaqu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » Nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons réparti en nations, tribus, clans, ethnies, toutes les diversités que vous connaissez, biologiquement parlant. Et en dépit de cette diversité, de cette foisonnante diversité, vous appartenez à la même espèce, vous êtes issus du même premier couple, Adam et Ève. Dans cette fraternité biologique, elle demeure en dépit de toutes les différences, sur le plan historique, idéologique, moral, éthique, intellectuel et religieux. Et il faut l'entretenir. En même temps, il y a cette fraternité spécifique entre tous les croyants d'abord, les musulmans, les chrétiens, les juifs, et une dernière fraternité beaucoup plus spécifique, beaucoup plus exclusive, qui concerne les croyants, les musulmans, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, dans ce sens, la fraternité qui nous unit est le fait que nous appartenons premièrement à un premier couple, Adam et Ève, deuxièmement, que nous avons les mêmes qualités, et que ces qualités sont intrinsèques, et elles sont essentiellement le fondement de notre existence. Troisièmement, qu'en dépit des diversités que peuvent naître de la biologie, de l'histoire de l'idéologie, cela ne doit pas empêcher cette fraternité de se manifester et d'être notre credo et notre devise.
C'est ce que l'islam veut, disons, construire comme une société saine, n'est-ce pas?
Absolument.
Père Steve, est-ce que la fraternité est ressentie et concrétisée de la même manière au niveau de différentes confessions religieuses, puisque Dieu dit « des croyants ne sont que des frères ».
Ce n'est pas une affaire de ressenti ou de sentiment. En fait, la fraternité, elle, comme l'a dit mon collègue Omar, c'est que nous faisons, dans une première dimension, faisons partie de la même humanité, c'est-à-dire que nous sommes pétris du même désir de bonheur, de liberté, de respect, de dignité qui appartient à tout être humain. Et dans un second temps, il y a cette fraternité qui est de type on partage les mêmes valeurs avec un certain nombre de croyances. Donc la fraternité, comme dit le pape François, doit aller au-delà du sentiment. Je vous renvoie à la dernière encyclique, la lettre encyclique très belle qui s'appelle Fratelli Tutti, ça veut dire tous frères, où le pape François part d'un constat que le monde actuel, je pense que ça n'a pas trop changé depuis les débuts de l'humanité, mais que le monde actuel vit une sorte de culture de l'indifférence. C'est-à-dire que la personne qui ne me ressemble pas, qui ne partage pas les mêmes, on va dire, valeurs et modes de vie que moi, la culture qu'on a dans le monde l'a défavorise. Et donc, le pape François en appelle, en citant bien sûr non seulement la tradition d'Église, mais la Bible et également toutes les aspirations humaines, il en appelle à une fraternité qui confine à une espèce d'amitié sociale. C'est-à-dire que, au-delà du clan, de l'ethnie, de la religion et même de la nation, eh bien, nous sommes appelés à aller vers l'autre comme étant mon frère. Et il cite entre autres un très très bel épisode méconnu même de la plupart des chrétiens, c'est la rencontre entre François d'Assise, saint François d'Assise, et le sultan Malik El Kamil en 1219, c'est-à-dire au XIIIe siècle, où un chrétien et fondateur d'ordre religieux réputé va respectueusement, en allant sur une terre islamique, être fraternellement reçu par un chef politico-religieux, et il va y avoir un beau dialogue entre les deux, non pas pour convaincre l'autre, toi tu as raison ou alors tu as tort, mais simplement de se dire nous sommes tous les deux croyants, et en même temps nous sommes donc des fils d'Abraham et nous sommes des fils d'humanité, hein, de Dieu, donc on peut se convenir que nous sommes des frères. Ça va au-delà du sentiment. C'est pour ça que je rebondis sur le fait que vous disiez, est-ce que selon les différentes confessions, est-ce que c'est le même ressenti? Malheureusement, l'histoire nous démontre que parfois on s'est plus focalisé sur la dimension intra-confessionnelle, c'est-à-dire que n'est mon frère que celui qui partage la même foi que moi, et on a oublié l'autre dimension qui est de dire même si l'autre ne partage pas la même foi, les mêmes valeurs, le même mode de vie, ben il reste mon frère en humanité. Donc ce n'est pas toujours évident de parler de fraternité, c'est encore moins évident de la vivre, d'autant plus que nous vivons dans un monde qui est très polarisé, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à se rassembler avec ceux qui nous ressemblent au lieu d'aller vers l'autre. Et ça, c'est un pas courageux vers celui qui ne me ressemble pas.
Al-Farouk, votre réaction, la fraternité ressentie ou concrétisée de la même manière au niveau de différentes confessions religieuses?
En fait, la dimension humaine ne peut pas échapper à notre observation. Qu'on veut ou pas, quelle que soit la profondeur de notre foi, son incandescence, la pureté, nous restons et demeurons et en premier lieu des hommes. À ce titre, nous devons considérer tous les hommes comme des frères, de façon intrinsèque, irréversible, souvent même inconditionnelle. Et ceci étant dit, je vis ma foi. D'abord sur le plan individuel, en vivant ma foi sur le plan individuel, je dois être sûr que ceux qui m'entourent, qui partagent ma confession, ma foi ou pas, ils demeurent le socle sur lequel je me lève. Sans eux, je ne suis rien. Les autres sont le tissu qui a permis à l'étoffe que, dont je me couvre de me couvrir. Et ça, c'est une chose quand même qu'il ne peut pas perdre de vue. Deuxièmement, tout ce que je sais, tout ce que je peux, tout ce que je dis, tout ce que je pense, les autres sont à la base de son élaboration, bien sûr, avec le destin que Dieu a fixé. Et chaque fois que je pense à cela, je ne peux pas me sentir dans ces réseaux denses de fraternité avec tous les autres hommes. Maintenant, quand je m'intéresse à mon cheminement spirituel, même là encore, je ne suis pas seul. C'est des gens qui m'accompagnent, que je considère comme des frères, des sœurs, sans lesquels mon cheminement, mon itinéraire vers Dieu le Tout-Puissant ne peut pas être envisageable. Pas du tout. Parce que tout ce que j'apprends, même par rapport à ma religion, il a fallu des gens qui s'y consacrent essentiellement, qui apprennent avant moi, qui m'enseignent ce que je sais, qui mettent le pied à l'étrier pour que je puisse être sur la monture qui me conduit vers le Seigneur. Donc tout cela ne peut se faire en dehors des autres. Sans les autres, je ne suis rien sur le plan biologique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Même la langue que nous parlons comme cela, je n'ai pas apporté le plus petit point diacrique que l'on doit mettre sur les i. Donc, même si je m'exprime bien en français ou dans une autre langue, toute autre langue, je dois savoir que l'apport des autres, c'est ce qui m'aide à m'exprimer. Alors, tout ce que je suis, c'est grâce aux autres. Donc, quand je veux me réaliser davantage, c'est par rapport pas à l'exclusion que je vais, dont je vais frapper les autres, mais à leur acceptation, à leur cooptation, à leur participation à mon moi, parce que mon moi ne peut se définir en dehors d'eux. Le substrat sans lequel mon moi n'a pas de sens, c'est les autres. Donc à cause de cela, c'est une solidarité qui ne dépend pas de moi et qui doit être manifeste à moi en tous les instants de mon existence, en tous les moments de mon existence et dans toutes les circonstances dont l'autre est mon frère, quel qu'il soit. Et je ne peux être sans lui.
Des religions se focalisent ce soir sur la foi et la fraternité. Nous poursuivrons notre discussion dans un instant. Restez branchés. Cette fraternité et qui anéantissent tout rapport fraternel entre les humains. Faut-il remettre sa foi en question? Est-ce la foi qui est défaillante, perfide?
En réalité, je pense que la plupart des divisions sont de l'ordre des problèmes anthropologiques. C'est-à-dire que sous la façade des religions ou d'un aspect religieux, on peut dévoyer la religion. C'est-à-dire que toutes les grandes religions ont connu dans leur histoire des péripéties où elles ont eu à subir ou à connaître des mouvements de type extrémiste, y compris dans le christianisme. Et je le dis très humblement, parce que souvent on a tendance à stigmatiser aussi l'une ou l'autre religion. Mais au fond, c'est l'avidité de l'homme, le fait de vouloir cet orgueil permanent, cette concupiscence qui marque l'individu, le fameux péché d'Adam, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment le péché des origines, hein, enfin Adam et Ève si on veut, parce que voilà, le péché des origines de dire je veux être le maître du monde, celui qui domine, et cela on va canaliser cette aspiration qui confine à réduire l'autre à néant, on va la canaliser et on va lui donner des aspects religieux. Parce que, au fond, c'est l'homme qui combat contre un autre être humain. Après, il peut y avoir toujours des motivations religieuses. Des motivations, parce que la religion, il faut le savoir, elle conditionne l'être humain. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, je partage entièrement ce point de vue. Nous sommes le fruit de l'héritage de nos aïeux. Je dirais un peu comme la célèbre phrase de Newton, nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. C'est-à-dire, je ne suis pas une île, je dépends de tout un agrégat de convictions, de paroles, de traditions, tout un background éducationnel. Et donc, même au niveau des conflits, les conflits naissent pas seulement parce que c'est les religions qui contraindraient l'homme à agir comme ceci ou cela, mais bien souvent, à y regarder de près, c'est vraiment, on va revêtir cette avidité, cet orgueil, cet esprit de domination d'aspect religieux. Alors, je ne dis pas que toutes les religions sont, on va dire, dénuées de l'esprit de division, mais bien souvent, le problème n'est pas dans les religions, parce que la religion, au sens propre du mot, elle nous relie à la divinité, nous relie à Dieu, et nous permet de relire notre vie également sous l'aune de notre foi. Elle n'est pas là en principe pour nous diviser. Mais lorsque l'homme s'abaisse vers cette bassesse humaine, eh bien, il est divisé non seulement en lui-même, mais avec ses frères et avec Dieu qu'il est appelé pourtant à servir. Je dirais que c'est un problème plus anthropologique que religieux.
Al-Farouk, comment travailler ensemble dans ce qui unit tout en respectant les divergences?
En fait, le père Yves me donne l'occasion de rebondir sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il y a un problème d'anthropologie, mais surtout, il y a aussi des instincts sataniques. L'instinct satanique se manifeste par l'intolérance, le chauvinisme, le fanatisme et tout l'excès dans l'expression de la foi, souvent en pensant que la rédemption, le salut ne dépend que de nos efforts individuels, que je suis sauvé, j'ai le salut parce que tout simplement c'est moi-même. Alors au lieu de faire remonter le salut à sa source première qu'est Dieu et à sa volonté qui est souveraine, qui est complètement indépendante de mes sentiments, de mes préoccupations, non, Satan a embelli à l'homme l'importance de l'ego. Finalement, chaque individu exalte d'abord sa personne. Et à travers l'exaltation de sa personne, il exalte ce à quoi il adhère. Alors, même si cela entraîne l'exclusion des autres, le combat contre les autres, le conflit avec les autres, je crois qu'il faut voir le problème un peu sous cet angle-là. Le fait que nous sommes dominés par les instincts sataniques. Et il faut avoir la capacité de les discerner et en même temps être capable de les effacer en nous. C'est ce qui nous aide beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'islam, on dit chaque fois, même les actes religieux qui sont fondamentalement intrinsèquement religieux, chaque fois qu'on se met à les pratiquer, il faut demander l'assistance, le secours, l'aide de Dieu pour être à l'abri des tentations de Satan. Parce qu'il est toujours là, logé dans les meilleurs endroits, les plus petits coins de notre âme d'abord. Et nous ne pouvons pas échapper à son emprise tant que nous ne sommes pas avec Dieu. Et la religion doit nous pousser d'être avec Dieu. Et dès le moment qu'on est avec Dieu, le chauvinisme, le manichéisme, la volonté de réduire le néant disparaissent. On ne peut pas être avec Dieu et ne pas aimer ce que Dieu a créé, et en particulier les hommes, même si cet amour peut être hiérarchisé. Mais cette hiérarchie n'exclut pas du tout, n'entraîne pas à son suite la haine. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc pour moi, je pense que les religions peuvent nous aider à nous élever au-dessus des petites contingences de tout ce que l'histoire a connu. Les conflits ne sont pas nés parce que les gens croient en Dieu. Les conflits sont nés parce que les gens suivent Satan et obéissent à ses impulsions. Et je crois que c'est très important que les religions se penchent sur cet aspect de leur comportement pour voir dans quelle mesure et dans quel sens Satan a toujours été victorieux, même contre les gens qui apparemment sont très religieux.
Oui, Al-Farouk, vous l'avez bien dit, nous sommes tous des frères en dépit des différences raciales et culturelles. Quel est le rôle des leaders religieux pour que les uns portent aux autres un amour fraternel?
Ils doivent être capables d'allier la raison et la foi, d'allier leur humanité globale à leur individualité, d'allier l'universalité au singulier, d'être capables d'aller vers Dieu au lieu d'aller vers l'exaltation de soi, d'être capables d'aller vers la fraternité au lieu de considérer sa chapelle comme étant le temple sans lequel il n'y a pas de rédemption. Donc quand ils sont capables d'aller à l'essentiel, en se focalisant sur l'essentiel, en invitant les dialogues vers l'essentiel, tout en permettant à chacun de vivre conformément à ce qu'il croit fondamentalement intéressant, alors je pense qu'un premier pas sera posé pour permettre à l'humanité d'aller de loin. Mais il y a aussi une chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les guerres ne peuvent pas être la solution au problème de l'humanité. Aujourd'hui, l'arsenal nucléaire que nous avons, les bombes que nous avons, les armements que nous avons, imagine un pays comme les États-Unis, vous voyez ici, c'est un pays très riche, mais chaque année, 600 milliards de dollars sont consacrés à la défense. Prenez cet argent, cette somme si colossale, que si on mettait ça dans la gestion, la résolution de tous les conflits que l'humanité connaît aujourd'hui, dont souffre l'humanité dans sa globalité, dans sa chair, même les problèmes écologiques donc, qu'on évoque à longueur d'antenne, je crois que beaucoup de choses seront accomplies. Beaucoup d'eau aura coulé sur le pont, il n'y a même pas de doute à cela. Donc la religion peut nous aider à cela, parce que la religion doit nous aider à tuer en nous tout ce qui est satanique, tout ce qui est égoïste, tout ce qui est individuel, aller vers ce qui est plus collectif, plus communautaire, plus normal, plus fondamental.
Merci. Le pape François est dans son rôle comme leader religieux. Le rêve de fraternité face aux inégalités socio-économiques, souvent opposées au dogme néolibéral, constitue un thème phare de près de 8 années du pontificat du pape François.
Oui, effectivement, c'est quand même un de ces angles d'attaque les plus en vue pour résoudre les crises mondiales. Mais au-delà du pape François, il faut savoir que la religion chrétienne, le catholicisme en particulier, considère l'être humain comme un tout. C'est-à-dire nous avons la dimension bien sûr spirituelle, la dimension corporelle, mais nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Donc on ne peut pas se désolidariser de ce que vit l'être humain dans le concret de son existence. Sinon, ça serait une religion éthérée qui est complètement le contraire de la religion incarnée que nous apprend Jésus-Christ par son incarnation, lui qui est le Verbe, la parole faite chair. Eh bien, c'est pour ça que le pape François, en fait, s'inscrit dans une longue tradition, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui veut, avec des éléments de foi, aider, conscientiser l'être humain, les humains, à résoudre les problèmes dans le concret de leur existence. Donc ce n'est pas un pape plus social que d'autres, mais simplement il tente du mieux qu'il peut, il n'est pas le seul, à aider à conscientiser les êtres humains sur non seulement la fraternité, mais aussi contre le capitalisme sauvage, contre ce néolibéralisme. Et là, il est parfaitement dans son rôle, comme tout leader religieux d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des religions, et que ce soit qu'on soit musulman, juif, ou chrétiens ou bouddhistes, etc., ont des structures d'aide pour essayer de venir en aide au prochain qui est la personne en difficulté. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut travailler concrètement ensemble. Moi, j'ai vu à l'œuvre deux organisations, une catholique, le Secours catholique, et une autre islamique, le Secours islamique, œuvrer ensemble, par exemple, pour faire des maraudes. Les maraudes, c'est sortir dans la rue le soir, en plein hiver, pour essayer de donner du thé chaud ou de réconforter les sans-abri en leur offrant un abri. C'est quelque chose que nous faisons au nom de notre foi, même si on peut avoir des divergences de vues, parce qu'il faut aider le prochain et nous aspirons tous à la vie et nous reconnaissons que puisque l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien il a la même dignité, qu'il soit croyant, qu'il soit ou pas, qu'il vienne de telle ou telle ethnie, clan ou race. C'est d'ailleurs ce que rappelle très bien la déclaration sur la fraternité humaine signée par le pape François et le recteur d'Al-Azhar, l'université Al-Azhar, à Abu Dhabi en février 2019.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci à nos invités à Paris, le père Steve Mike Nyongru, merci.
Merci à vous, toujours avec le même plaisir.
À New York,
Omar Al-Farouk Diaby. Merci.
Merci et à la prochaine fois.
À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Eric Loumane-Batida vous souhaite une soirée fraternelle. À la prochaine.